Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Soccer Spot. Soccer Spot.
Y'a personne de safe ici dans la chambre. Parce que c'est pas un camp de vacances ici.
Quand tu viens à Montréal jouer devant 700, on te dit tu viens jouer à l'Université de Montréal, you're gonna compete with the best, against the best, tous les jours.
Gagner beaucoup des trophées. Merci à Ibra Kadabra.
Moi, pour moi, c'est le ballon d'or du peuple. Voilà.
So I'm not one of the bottle. I think I'm a special one.
I can't really hear what Jeremy says because I got my two Stanley Cup rings plugged in my ear.
Universitaire en action. Bonjour, chers auditeurs, chers auditrices, bienvenue à Universitaire en action tous les dimanches matin, 9h, 10h sur les ondes de CSM, le 89,3 FM, la plus grande radio universitaire francophone au monde, mesdames et messieurs. Oui, oui, vous l'avez entendu, bien ici, dans la merveilleuse métropole, la ville de Montréal, coin métro, en fait, Édouard Montpetit ou Université de Montréal, c'est selon. Et également en rediffusion tous les lundis soirs, 20h, 21h, CFAC, le 88,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke et cette merveilleuse ville de Sherbrooke en Estrie, qui est selon moi, comme je le dis chaque semaine, probablement la plus belle région de tout le Québec. Wissam Benstar en onde avec vous pour la prochaine heure. Et cette semaine au menu, eh bien, deux choses particulièrement. On a une entrevue avec une joueuse québécoise qui est au Portugal. On va lui parler. Elle s'appelle Megan Sauvé. C'est à venir en deuxième partie d'émission. C'est une entrevue environ d'une vingtaine de minutes que j'ai réalisée avec elle la semaine dernière. On va parler également un peu d'actualité universitaire pour parler des championnats canadiens en cours. Comme vous le savez, bien entendu, c'est une émission en rediffusion, préenregistrée. Et non pas en rediffusion, mais bel et bien préenregistrée. Et donc, on n'a pas accès à tous les matchs qui se sont passés, bien sûr, hier, entre guillemets, samedi, le 16 mars. Et on va commencer, par contre, le tout avec le CF Montréal, parce que le CF Montréal... C'est pas de la petite bière cette année, le CF Montréal, c'est la grande classe. On va vous parler de ce qui se passe avec cette équipe-là. Tout d'abord, CF Montréal, la saison est commencée depuis plus de 3 matchs. 4 matchs, bien entendu, là, qui vont être joués au moment de cette émission lorsqu'elle sera enregistrée, puisque hier, il y avait le match entre Chicago et Montréal à 14h, un horaire assez atypique d'ailleurs. Puis d'ailleurs, concernant le CF Montréal, c'est à noter que la très grande majorité de nos matchs côté CF Montréal à domicile cette année, eh bien, ils seront tous à 19h30 le soir ou à 18h. Il n'y aura pas de match l'en après-midi à 2h ou à 15h ou à 13h comme il y a parfois des matchs, comme par exemple avec le New York City FC qui joue. Donc, ce sera des matchs en soirée. Et notamment, le match d'ouverture, c'est contre Cincinnati. C'est dans moins d'un mois, mais on n'est pas loin encore. Il faut encore attendre un petit bout. Le 13 avril 2024, 19h30, stade Saputo. Et le stade risque d'être plein à craquer, puisqu'on va en parler dans quelques secondes. Le début de saison du CF Montréal est incroyable. Et le 2 avril, d'ailleurs, je serai au lancement officiel de la saison du CF Montréal. Et donc, on pourra vous partager ça, chers auditeurs de CSM et de CFAC. 3 matchs joués depuis le début de la saison. 3 matchs sur la route, puisqu'il faut le rappeler, le CF Montréal commence la saison avec 6 matchs sur la route. Ça, c'est très rare que ça l'arrive. Et lorsque ça l'arrive dans des championnats, par exemple, européens, c'est parce que souvent, le stade est en rénovation, il y a des problèmes techniques ou il y a eu des problèmes météorologiques. Et donc, c'est très rare que ça l'arrive. Et avec le CF Montréal, on le sait, on vit au Québec, on est à Montréal, il fait froid, il y a beaucoup de neige, même si il y en a de moins en moins. Petite parenthèse. Mais les matchs, on les commence à l'extérieur et on les commence surtout à l'extérieur dans des endroits où est-ce qu'il fait plus chaud. Orlando, Dallas, Miami, Washington, Seattle. Donc, voilà. Et le premier match de la saison, eh bien, ça s'est soldé par 0-0 contre Orlando. Orlando qui, ça faisait plus d'un an environ, qui n'avait pas marqué de but à domicile chez eux. Et donc, le CF Montréal a permis d'obtenir le jeu blanc pour Jonathan Sirois lors de ce premier match. Ensuite de ça, le CF Montréal se déplace du côté de Dallas. Dallas qui est quand même une bonne équipe de la Ligue en général. Et boum, deux buts. Joseph Martinez et Vilsain qui font 2-1 et qui remportent ce match du côté du Texas à Dallas au Toyota Stadium devant 19 096 spectateurs. Et d'ailleurs, le premier match côté Orlando, ça se passait du côté du Explorer Stadium et c'était 24 249 spectateurs. Donc quand même, là, il y a de l'engouement côté MLS dans les villes américaines. Et le dernier match, c'était la semaine dernière contre le CF Montréal, contre l'Inter Miami de Lionel Messi et de Luis Suarez. Messi n'a pas joué, évidemment, puisqu'il était blessé et ou au repos. Il a rejoint en milieu de semaine pour y affronter Nashville, une victoire facile pour l'Inter de Miami, qui se qualifie d'ailleurs pour la Ligue des champions de la CONCACAF pour les quarts de finale. Ça, c'est la meilleure compétition de club d'Amérique du Nord. On va en parler dans quelques instants, là. La CONCACAF Champions Cup, à ne pas confondre avec la Leagues Cup. Et malgré l'absence de Messi, on sait que l'Inter de Miami a beaucoup de joueurs. Busquets, Alba, Suarez, Messi évidemment qui n'est pas là, et d'autres joueurs plus de second degré, mais les quatre, c'est quand même un effectif de feu, avec l'entraîneur Gerardo Martino, qui ne s'est pas gêné, bien entendu, pour ramener presque tout le monde qu'il a entraîné au FC Barcelone. Donc, ce sont les quatre joueurs que je viens de citer, ce sont des joueurs qui se sont connus et qui ont joué ensemble avec le FC Barcelone. Eh bien, l'équipe de Tata Martino s'est fait surprendre par le CF Montréal, un CF Montréal qui joue bien, et un CF Montréal qui est capable de marquer des buts. Et lorsqu'il n'en marque pas, comme contre Orlando lors du premier match, ça joue bien au ballon, c'est beau à voir, il y a des opportunités de but. Et puis quand on récupère la balle, la contre-attaque se déroule quand même assez rapidement, donc c'est intéressant à voir. Alvarez a ouvert la marque à la 13e minute avec une passe de Lasseter. C'était 1-0 en première mi-temps pour le CF Montréal. En deuxième mi-temps, Leandro Campagna avec une passe de Sunderland faisait 1-1. C'était à la 71e minute. 75e minute, Mathias Coccaro marque son premier but de la saison avec le CF Montréal avec une passe à Mathieu Chouanière. Ensuite, 3 minutes plus tard, Ibrahim Sounoussi Marc, lui qui venait tout juste d'entrer en jeu avec une passe à Joseph Martinez. Et Jordi Alba réduit le score 3-2 avec une passe de Sergio Busquets. Et donc, score final pour le CF Montréal, 3-2. Et donc, au classement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, au classement général de toute la Ligue MLS, avec 3 matchs joués, le CF Montréal, 2 victoires, 1 match nul, 0 défaite, 5 buts pour, 3 buts contre, 7 points. Ils sont premiers, en fait, en termes de points. Il n'y a personne dans la MLS qui a plus de points que le CF Montréal. Et il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont devant eux qui ont encaissé moins de buts. Là. Donc, 3 buts en 3 matchs, c'est sûr qu'on peut dire que c'est beaucoup. Mais les premiers, Miami en ont encaissé 4. Portland, ils en ont encaissé 4. Minnesota, également 4. Et donc, le CF Montréal connaît un début de saison tout simplement canon. Et dans l'Est, eh bien, le CF Montréal est deuxième derrière Miami. Mais Miami qui ont perdu un match justement contre le CF Montréal. Et Miami, d'ailleurs, ils ont joué un match de plus que le CF Montréal. Donc, dans les faits, le CF Montréal pourrait pratiquement être premier là, du classement de la conférence de l'Est. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que quand on regarde les marqueurs du CF Montréal, on n'a aucun joueur qui a plus de un but. Coccaro en a un, Fernando Alvarez, le défenseur, en a un, Jules-Anthony Vilsain, l'attaquant local d'ici, à qui on prédit un avenir quand même assez gagnant, assez successful, comme on dit en anglais, un futur très prometteur pour le jeune attaquant. Il a marqué son premier but avec le CF Montréal cette saison. Sounoussi, un but, et Joseph Martinez, un but. Donc, quand on regarde les marqueurs, nos quatre attaquants, parmi les attaquants, là, il n'y a pas que quatre, ils ont déjà ouvert leur compteur avec le CF Montréal. Et quand on regarde maintenant en termes de passeurs, eh bien, Coccaro a un but, une passe, et Joseph Martinez a également un but, une passe, et ce sont deux recrues très importantes pour le CF Montréal. Et Juan latéral, bien sûr, qui joue avec le CF Montréal, qui vient, je crois, de DC United. Et bien lui, il a également une passe. Donc, les recrues qui ont joint le 11 montréalais cette saison sont quand même très impressionnantes. Et puis, bon, c'est quand même un début de saison de rêve. Et on espère que ça va continuer comme ça. Maintenant, une petite note intéressante concernant le CF Montréal. Le défenseur Fernando Alvarez et l'attaquant Matias Cocaro, eh bien, ils ont marqué leur premier but en MLS dans ce match-là là, contre Miami. Laurent Courtois a remporté le plus grand nombre de points lors de ses trois premiers matchs à l'extérieur pour un entraîneur-chef de première année en MLS, 7, depuis Filmville en septembre 2021. Le CF Montréal n'a pas été mené au score lors des 6 dernières mi-temps en MLS, ce qui est quand même très bon. On l'a déjà mentionné, Sunusi Ibrahim a marqué son premier but de la saison. Ariel Lasseteux a joué son 125e match en MLS. Mathieu Chouanière, son 75e départ en MLS. Et puis le défenseur Joel Waterman et le milieu de terrain Bryce Duke ont joué leur 90e match en MLS. Et quant à Bryce Duke, Ariel Lasseteux, ainsi que l'attaquant Joseph Martinez, eh bien, il faisait un retour au Chase Stadium après avoir joué pour l'Inter Miami en 2023. Donc, c'est quand même des très bonnes nouvelles côté CF Montréal. Maintenant, on va y aller avec des petites actualités dans la Ligue de la MLS. On va y aller avec le classement général de 1 à 29. 29 équipes dans la Ligue. Vous comprendrez, bien entendu, que le CF Montréal ne peut pas affronter toutes ces équipes dans une saison. Inter Miami, premier, deuxième Portland, troisième Minnesota, quatrième Montréal, 5 Columbus, sixième New York Red Bulls, septième Toronto, huitième Los Angeles Galaxy, neuvième DC United, dixième Saint Louis, onzième Cincinnati, douzième Vancouver. Toutes ces équipes sont invaincues, sauf l'Inter Miami qui a perdu une petite partie. 13e Salt Lake, 14e Charlotte, 15e Colorado, 16e Los Angeles, 17e Atlanta, 18e Dallas, 19e Nashville, 20e Kansas City, 21e Philadelphie. Faites à noter, là, Nashville, Kansas City et Philadelphie sont en bas du classement, mais ils sont invaincus. Les trois équipes respectivement ont eu 3 matchs nuls en 3 matchs avec un but... Avec 3 buts marqués, 3 buts pour Nashville, 2 buts marqués, 2 buts pour Kansas City. Philadelphie, ben, ils ont joué 2 matchs, 2 matchs nuls. Austin, 22e, 13e, 23e Houston, 24e Seattle, 25e Chicago, 26e Orlando, 27e New York City, 28e San Jose et 29e New England. La pire défense de toute la ligue, eh bien ça revient à nos amis de la Nouvelle-Angleterre avec 8 buts encaissés en 3 matchs et Orlando également. D'ailleurs, Orlando, le CF Montréal n'a pas marqué contre eux. Donc, les 8 buts, les ont encaissés contre d'autres équipes. La pire attaque de toute la ligue, eh bien, c'est nos amis de Seattle avec 1 but marqué en 2 matchs. Mais ils n'ont joué que 2 matchs. Et également, New York City, 1 but en 3 matchs. Meilleure attaque de la ligue, c'est l'Inter de Miami avec 10 buts marqués en 4 matchs. Sinon, Portland avec 8 buts marqués en 4 matchs, c'est bon. Et la meilleure défense de toute la ligue, eh bien, c'est le Toronto FC, mesdames et messieurs, avec 3 matchs joués, aucun but encaissé, 2 buts marqués. Et qui a marqué 2 buts pour Toronto FC? Notre ami napolitain Lorenzo Insigne, qui a connu une saison catastrophique l'année dernière, comme le reste de son équipe. Eh bien, cette année, il a 2 buts. Il est parmi les meilleurs buteurs de la saison. Sinon, Benteke avec son tour du chapeau de DC United en a 3. Messi en a 3. Georgios Giagoumakis, le grec de Atlanta, en a 3. Anthony Alves en a 3. Dejan Jovelic de Los Angeles Galaxy a également 3 buts marqués. Et les meilleurs passeurs, eh bien, Luis Suarez, à peine débarqué en MLS, c'est le meilleur passeur avec 3 passes. Lui qui est un buteur la plupart du temps. Aaron Herrera en a 2, l'ancien du CF Montréal d'ailleurs. Marquis Delgado 2, Julian Gressel 2, Andrés Gomez 2. Tani Oluwaseni, Seyi, pardon, 2 passes. Et Juan Mosquera de Portland, 2 passes, faites à noter. Notre ami Lionel Messi a une passe à date dans la saison de la MLS. Donc, c'est fait pour la MLS. On va y aller en musique et après, au retour, eh bien, ça sera notre athlète québécoise qui joue au Portugal, dans la région de Porto, eh bien, j'ai nommé Megan Sauvé. Restez là, et après ça, on s'en va au Portugal!
Chercher la réponse et ne trouver que mille questions à poser. Marcher dans les ronces qui peuvent les vallées, en revenir les yeux fanés. Oh, souvent je me demande si j'avance ou si je que pour fleurir, il faut que je renonce. Moi qui croyais avoir tout vu, je me retrouve posé nu devant mon reflet décousu. Envie de fuir, envie de m'enfuir, ne plus penser. Chercher la réponse et ne croiser que les échos du passé. Courir en silence de peur d'éveiller les astres alignés. Oh, souvent je me demande si j'avance ou si je de me réduire ou que je prononce. Moi qui croyais avoir tout vu, je me retrouve posé nu devant mon reflet décousu. Envie de fuir, envie de me fuir.
Sur les ondes de CSM et de CFAC. Vous écoutez Universitaire en action. Et Soccer Sport sur les ondes de CFAC, bien entendu, c'était la nouveauté francophone de la semaine. J'ai nommé St. James avec sa chanson Fuir, palmarès CSM et CFAC, bien entendu, pour vous. Maintenant, on y va avec Megan Sauvé. On est avec Megan Sauvé. Megan, comment ça va aujourd'hui?
Ça va bien, toi?
Ça va très bien, merci. Est-ce qu'il fait beau à Porto?
C'est un petit peu pluvieux en ce moment, mais il fait quand même chaud.
Parfait. C'est tout le temps pluvieux un peu à Porto, non?
Oui, on est dans le nord, donc il faut s'en attendre.
Exactement. Donc, écoute, on va faire une entrevue avec toi. Tu es une joueuse de soccer qui joue en continent européen. Donc, on a plein de questions pour toi. Merci pour ton temps, tout d'abord.
Ça fait plaisir.
On va commencer simplement pour nos auditeurs. La première question que je demande à tout le monde, c'est « Tu es qui? » C'est quoi ton nom? Tu viens d'où? Tu as grandi où? Tu as été à quelle école au secondaire? Tout ça. Un petit mini parcours, s'il vous plaît.
Mon nom, c'est Megan Sauvé. Je suis native de Saint-Hyacinthe. Puis j'ai été à l'école secondaire à Saint-Hyacinthe. Puis au cégep, j'ai décidé de quitter Saint-Hyacinthe, d'aller à Garneau, à Québec. Donc j'ai évolué 2 ans à Garneau. Puis après, je suis revenue à Montréal. Là, je suis allée à l'Université de Montréal. J'ai joué pour les Carabins pendant 6 ans, si on compte l'année qu'on a gagnée avec la COVID. 6 ans, puis après, c'est là que j'ai quitté. Puis maintenant, je suis ici.
Excellent. Très bonne présentation. Puis, est-ce qu'il y avait une raison pourquoi tu as voulu quitter pour FX Garneau? Est-ce que c'était relié au sport ou tout simplement tu voulais changer de coin? Ou
Non, c'était relié au sport. Je voulais aller jouer en Division 1. Puis, les cégeps les plus proches de chez moi, c'était Champlain, Anticique, Garneau, si on allait de l'autre sens. Puis, Garneau, c'était... En fait, je pense que c'est l'ambiance. J'ai fait les deux équipes. J'ai fait comme des essais avec les deux équipes. Puis, l'ambiance à Garneau, c'était vraiment top. J'ai adoré David, donc... Ça m'a poussé à aller à Garneau. Ouais.
Excellent. David, est-ce qu'on parle de David Desloges?
Oui, qui est maintenant coach Rougeur, oui.
OK, excellent. Cool. Vous le connaissez aussi, Daphné le connaissait, fait que c'est intéressant de voir qu'il y a un impact sur plusieurs joueuses. Petit mot sur Saint-Hyacinthe. Bon, je la connais, j'ai été quelques fois. Comment est-ce que tu as trouvé ça, grandir là-bas?
C'est petit. C'est petit. Uh-huh. J'ai aimé ça grandir là-bas parce que j'étais chanceuse que dans ma génération, il y avait une équipe de soccer 3A, donc j'ai été capable d'évoluer quand même au haut niveau. Mais c'est quand même venu un moment où, bon, je voulais aller au haut niveau, puis il n'y avait pas grand-chose après comme 16 ans qui se passait là-bas. Donc j'ai adoré grandir là, mais il est venu un temps où il a fallu que je quitte le nid. Là. Ouais.
OK, excellent, cool. Puis ta passion pour le soccer, ça vient d'où? C'est-tu familial? Comment ça s'est passé?
Pas vraiment familial. Je pense que mes parents ont décidé d'inscrire moi et mon frère au hockey et au soccer, parce que c'était les deux sports qu'on aimait et qu'on était passionnés un petit peu. Donc, les deux, on a fait hockey-soccer jusqu'à 15 ans peut-être. Puis là, on a fait un choix. Moi, j'ai choisi le soccer. Lui, a choisi le hockey. Puis on a fait un peu chacun dans lequel on était le plus talentueux, je dirais. Fait que, OK. Ouais.
Parfait. Puis ta position préférée au soccer, c'est quoi?
Ça change beaucoup avec les années. J'ai joué comme tous les postes. Quand j'étais à Garneau, j'étais M6, donc j'étais milieu de terrain. Puis plus le temps avançait, plus j'ai été décalée sur le côté. Avec l'UDM, j'ai été attaquante de pointe. Mais je pense que maintenant, je dirais défenseur latéral gauche, c'est comme mon poste. Okay. Mais on pourrait me changer. Pendant l'année, cette année, j'ai joué défenseur central, j'ai joué ailier, j'ai fait un petit peu des deux, donc ça peut bouger. Ouais.
OK, donc défenseur central gauche, ça veut dire que tu as quand même beaucoup de vitesse.
Ouais, okay. Je pense que c'est pour ça qu'on m'a mis là. Ouais.
Excellent. Puis est-ce que tu suis, là, tu es au Portugal, on va en parler dans quelques minutes, j'ai hâte. Est-ce que tu suis beaucoup le soccer, les stars, le soccer masculin à la télé, la Ligue des champions, ou tu es plus une personne qui préfère jouer et puis le regarder, ça ne t'intéresse pas trop?
Je regarde principalement la première ligue, autant féminine que masculine. J'aime le soccer en Angleterre, puis la Ligue des champions féminine, Ligue des champions masculine aussi, j'aime ça suivre, ouais.
OK, excellent. On va en parler tantôt de ça, de Ligue des champions féminines, parce que vous avez une équipe qui ne vient pas de votre région qui la fait régulièrement, on va en parler tantôt. Les Carabins, quel a été l'impact que les Carabins ont eu sur toi comme personne, comme athlète? Tu as passé, tu l'as dit, presque 6 années là-bas. Quelle importance est-ce que ça a eu dans ta vie?
Je pense que ça m'a aidé à m'organiser dans tout ce qui est hors soccer, parce que j'étais quelqu'un qui n'aimait pas beaucoup l'école ou qui n'était pas très concentré dans tout ce qui est hors soccer. Puis ça m'a montré à comme garder une éthique de travail un peu dans toutes les phases de ma vie. Puis sinon, je dirais vraiment augmenter ma confiance en moi. Je pense que j'ai comme réalisé quand j'étais dans les Carabins que bon, j'avais le talent pour aller un peu plus loin. Fait que je pense que ça m'a juste fait réaliser un peu qu'il y avait d'autres choses à avoir après les Carabins. Ouais.
Excellent. Puis ton meilleur moment avec les Carabins, ça a été quoi?
On a gagné 2 fois le championnat canadien, à ma première année et à ma dernière année. Je peux pas te dire entre les deux lequel c'est le meilleur. Je dirais les deux en combiné. Les deux, c'était vraiment, je pense que l'apogée un peu de ce que tu veux faire dans le sport universitaire. Ouais.
OK. Puis ton pire moment en tant que joueuse avec les Carabins?
Pire moment. Je dirais on a perdu contre le Rougeard à la maison en finale provinciale en 2021. Mmh. Puis ça l'a fait vraiment mal, pas juste parce qu'on perdait. Moi, il me restait une autre année, mais il y avait beaucoup de vétérans avec qui j'avais fait comme toutes mes années, que je voulais vraiment qu'ils finissent sur un championnat canadien, puis on n'a pas réussi à faire ça. Fait, je pense que ça a été le moment le plus crève-cœur dans mes années. Ouais.
OK. Est-ce que c'est le moment le plus crève-cœur dans ta carrière jusqu'à l'heure actuelle?
C'est dans les plus hauts, je dirais. Dans les plus hauts. Sinon, okay. les défaites, on est allé au championnat canadien à quelques... Je pense deux fois, on est allé au championnat canadien, on s'est fait éliminer au premier tour. Ça aussi, ça fait vraiment mal parce que ça te pète un peu d'en face. Mais sinon, je pense que c'est un des plus hauts. Hein.
OK. Excellent, excellent. Cool. Très bonne réponse. Maintenant, là, tu es au Portugal. Le club s'appelle Valadares Gaia en français. Puis en portugais, c'est-tu Valadares Gaia? Comment tu dis en portugais?
C'est Valadares Gaia.
Valadares Gaia.
C'est juste que le S devient un ch.
Oui. OK. Puis là, toi, tu es là-bas. On va en parler. Comment est-ce que ça se fait? En fait, j'imagine que c'est pas toi qui envoie un courriel au club et qui leur a dit « Je suis intéressé pour vous ». Ils t'ont vu. Comment est-ce que ça se passe quand tu es une joueuse avec les Carabins, une bonne joueuse comme toi, pour signer dans un club de première division au Portugal?
En fait, au début, je savais pas comment ça se passait. Il faut que tu trouves un agent. Donc, moi, j'ai commencé à magasiner des agents. Il y a des agents qui sont en Europe qui contactent ou qui veulent avoir contact avec toi. Il y a des agents du Canada qui veulent avoir contact. Moi, j'ai choisi Marie Lallier qui est au Canada parce que je voulais comme être active dans le processus. Je voulais pas juste avoir des nouvelles de quelqu'un qui est dans un autre continent. Donc, j'ai choisi de travailler avec elle. Puis, à partir de ce moment-là, ben, c'est ton agent qui est en charge de faire les démarches. Puis ça l'a bien tombé, elle a contacté ce club-là, puis il avait besoin d'une latérale gauche, donc c'est comme parfait dans ce qu'il avait besoin. Mais ouais, tu laisses un peu ton sort entre les mains de ton agent, je dirais.
OK, puis l'agent pour la rencontrer, c'est quoi? Tu trouves une agence, t'appelles, puis tu dis « j'ai besoin d'une agente », puis ça se fait comme ça?
La majorité du temps, c'est les agents qui vont te contacter, parce qu'ils sont à la recherche. Soit il y a un club qui est en train de leur dire « j'ai besoin de telle joueuse », puis là, ils voient qu'il y a un profil comme ça dans leur ville ou qu'ils connaissent. Fait que c'est Marie qui m'avait contacté à l'époque et qui m'avait dit « j'aimerais ça travailler avec toi ».
Ouais. OK. Excellent. Okay. Fait que c'est comme ça que t'as été en contact. Puis est-ce que tu as eu d'autres opportunités ou c'était pas mal celui-là, puis that's it, puis t'as dit « let's go »
J'avais quelques autres opportunités, mais dans les pays que je voulais, c'était comme la meilleure offre, je dirais. Moi, je visais France, Portugal, Espagne, Allemagne, comme les top pays. C'est vraiment difficile de rentrer en division 1 directement dans ces pays-là. Fait que là, quand l'offre est arrivée, je me suis dit, j'ai pas le choix de l'accepter.
OK. Ça a été quoi ta réaction, la première chose? Quand tu as vu ce nom-là, c'est quoi la première chose que tu as fait? Est-ce que tu l'as googlé pour voir c'était où? Est-ce que tu as pleuré? Comment ça s'est passé?
J'ai googlé, en fait, pour ça, ma première question, c'était, ils sont où au classement, ils font quoi comme résultat et tout. L'année dernière, ils avaient fini bas dans le classement, ils étaient vraiment proches de se battre pour la relégation, mais les résultats qu'ils faisaient contre les grosses équipes, c'était des petits résultats, ce qui était comme encourageant. Alors, je me suis dit, bon, on va quand même se lancer dans le projet, puis finalement, on a fait vraiment, tu sais, à date, on a une bonne saison, on est mi-classement, puis on se tient là. Fait que, je pense que c'est positif, ouais.
Excellent. Puis, tu as parlé de d'autres pays. Est-ce que tu as envie de nous dire quel autre pays, par exemple, tu as eu des offres et que ça ne t'a pas trop intéressé?
Il y avait des intérêts de la part de certaines équipes en France, mais c'était en division 2, principalement. Okay. Parce qu'en France, c'est vraiment difficile. En fait, c'est difficile pour quelqu'un qui vient du réseau U-Sport parce que les gens ne connaissent pas ce réseau-là du tout. Par rapport, par exemple, à quelqu'un qui vient de la NTA, c'est un petit peu plus connu dans le monde. En division 2, c'était moins intéressant pour moi. Moi, mon but, c'était vraiment de rentrer le plus vite possible dans une division 1 puis d'essayer de combattre avec comme des grosses équipes. C'était ça, mon but. Fait que France, division 2, il y a eu des intérêts dans d'autres pays, mais j'avais pas, moi, d'intérêt à aller dans ces pays-là. Ouais.
OK. Parfait. J'ai une idée de quel pays ça peut être. Mais peut-être que je me trompe, là, mais en tout cas, je vais te laisser. Je te demanderai pas de le dire, évidemment, en ondes. Parfait. Donc, maintenant, tu débarques là-bas. Comment ça se fait, ton acclimatation? C'est comme ça qu'on dit ça, ton acclimatation? Je ne suis pas certain. Comment est-ce que tu t'adaptes à la vie? Premièrement, on vient te chercher à l'aéroport. Est-ce que tu pars là tout seul? Est-ce que tu vas avec d'autres personnes? Le logement, ça marche comment?
En fait, je suis partie toute seule. Puis, il y a quelqu'un qui vient me chercher à l'aéroport, la manager de l'équipe. Puis, elle m'amène chez moi. C'est une maison avec d'autres internationales. Enfin, je vis avec 3 Américaines, puis une Française-Portugaise. Donc, je peux parler français. C'est la seule, en fait, de l'équipe qui parle français. Okay. Puis les autres parlent anglais. Donc, on est dans une maison tout ensemble.
OK, cool. Fait que c'est comme un peu, c'est inclus dans ton package pour aller jouer là-bas, là. OK,
Ouais,
excellent.
en fait, quand tu vas jouer professionnel, des fois c'est inclus dans ton contrat, des fois ça l'est pas, tout dépendant du salaire que tu reçois et tout. C'est ton agent en fait qui va un peu négocier tous ces paramètres-là, mais moi c'est inclus dans mon contrat.
OK. Puis, c'est quoi tes objectifs, vos objectifs à titre d'équipe de Valadares Gaia, à titre d'équipe, puis à titre personnel? Quels sont les objectifs cette saison? Qui s'achève, là, on s'entend, mais.
Nos objectifs d'équipe, je dirais, finir dans le top 5, ça en est un. On sait que c'est quand même accessible, on n'est vraiment pas si loin, c'est juste qu'il faut essayer d'enchaîner des victoires contre certaines équipes. Fait que top 5, je dirais, de la Ligue, là, en ce moment, on se tient en 6e place, donc c'est accessible. Puis moi, de manière individuelle, c'est de continuer à avoir. En ce moment, j'ai des bonnes performances, fait que je pense que c'est de terminer la saison avec beaucoup de minutes, des bonnes performances pour que si après je vais avoir d'opportunités, ben, les portes ils s'ouvrent.
OK, excellent. Puis dans le fond, toi, est-ce que tu... Tout d'abord, avant de revenir à ça, je sais que le Benfica est qualifié en Ligue des Champions. Ils ont joué contre Barcelone, Rosenborg, tout ça. Il y a combien de places dans la division portugaise féminine qui donnent accès à la Ligue des Champions?
À partir de l'année prochaine, il va en avoir deux. Là, il y en avait une cette année. Et à partir de l'année prochaine, le top 2, ils vont en Champions League. Ouais.
OK. Donc, vous, pour votre club, est-ce que se qualifier pour la Champions League à l'heure actuelle, c'est un peu difficile? Est-ce que vous pensez que c'est atteignable ou c'est trop compliqué?
On est rendu à un point où c'est un peu trop compliqué parce que les équipes du haut de classement, position 2 et 3, ils sont rendus assez haut, là. Le Sporting Portugal est vraiment haut au niveau des points, fait que ça prendrait beaucoup de mauvais résultats de leur côté. Je pense pas que ça va arriver, là. Donc, je pense que notre but, c'est vraiment d'essayer d'aller chercher le plus de points possible pour le reste de la saison pour rester dans le haut du peloton,
OK. Mais je parlais plus pour l'année prochaine, mettons que tu es encore là. Est-ce que c'est quelque chose qu'en début d'année, vous vous dites ou vous le savez que c'est comme par exemple en Angleterre, Manchester City, Liverpool, c'est presque certains qui gagnent, puis les autres, ben, ils essayent de faire du mieux?
C'est difficile à répondre comme question. Je dirais que tout le monde est conscient que bon, Benfica, ils ont plus de moyens pour atteindre un peu leur but. Donc au final, je pense qu'ils vont toujours avoir un edge tant que les autres équipes n'ont pas les moyens financiers qui sont égaux ou meilleurs. Je pense que c'est vraiment d'y aller une année à la fois. Parce qu'au Portugal, ça bouge beaucoup. Les équipes, de mi-peloton, bas de peloton, tu vois, il y a des équipes que l'année dernière, ils étaient. Bas de peloton, puis maintenant ils sont rendus en haut, donc ça bouge tellement que c'est vraiment d'essayer de continuer d'enchaîner des bons résultats sans trop penser aux années suivantes, je dirais.
OK. Puis toi, est-ce que à titre personnel, est-ce que tu dis moi, Mégane Sauvé, j'ai quand même du talent, je crois en moi. Puis mon objectif, c'est de jouer dans la meilleure division au monde chez les femmes. Est-ce que tu penses pouvoir te rendre là ou dans ta tête, t'es plus, je suis en développement, j'ai envie de continuer avec une équipe de milieu de tableau au Portugal pour les prochaines années. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu as des en ce sens-là?
Mon but, c'est d'aller. En fait, ce que j'ai dit à mon agente, c'est mon but, c'est d'aller dans un niveau qui est probablement supérieur à ce que je suis présentement, peu importe la ligue, le pays ou quoi que ce soit. Donc, le haut de classement, bas de classement, ça ne me change rien tant que le niveau foot en tant que tel est meilleur. Donc, si on parle par exemple au niveau en France, il y a quand même un edge par rapport aux autres ligues. Donc, que tu sois dans une équipe bas de classement, tu vas quand même jouer contre des très très bonnes équipes, puis ça te sort de ta zone de confort. Enfin, moi, c'est ça que je recherche, que ce soit dans une équipe top ou pas top. C'est que moi, ça me sort de ma zone de confort. Je suis assez consciente et réaliste que je sais que je veux dire, je vais pas jouer pour l'Olympique Lyonnais, là, t'sais. Je suis réaliste dans mes capacités, mais je veux aller au plus haut que ce que ça peut me permettre d'aller.
OK. Donc, tu penses que l'Olympique lyonnais, tu peux pas jouer jamais parce que tu penses que tu as pas assez de talent. C'est quoi la raison pour ceux qui, pour nos auditeurs là, qui connaissent pas trop ça?
L'Olympique Lyonnais, si tu regardes leurs joueurs, c'est des joueurs qui jouent en équipe nationale senior depuis longtemps, qui ont beaucoup de minutes en équipe nationale, qui ont joué des Coupes du Monde.
Ouais.
Je considère que j'ai du talent, mais je suis quand même réaliste par rapport au talent que j'ai et aux autres.
OK.
Fait que je pense juste que c'est quelque chose qui est beau, que je peux compétitionner avec elles. Comme quand je joue contre Benfica, je suis capable de compétitionner avec les joueuses, mais je suis quand même consciente de moi, mes limites à moi. Ouais.
OK, excellent. Très, très. Beaucoup d'humilité dans tes propos, Megan. Maintenant, ta semaine au Portugal, comment ça se passe? C'est des entraînements. Tu t'entraînes combien de fois par semaine?
On s'entraîne à tous les jours. Parfois, on a une journée de congé la journée après un match. Donc, ça va être 5 entraînements, un match, tout dépendant combien de matchs on a dans la semaine. Mais c'est un entraînement par jour plus 2 à 3 séances au gym le matin. Donc, nous, on s'entraîne
OK.
l'après-midi. Donc, le matin, 2 à 3 séances au gym. L'après-midi, pas mal tous les après-midi, on a un entraînement.
OK. OK. Puis les installations là-bas dans ton club où est-ce que tu joues, est-ce que tu pourrais comparer ça par exemple au Carabin? Est-ce que ça se ressemble? Est-ce que c'est
C'est
top?
moins. Je dirais que les gens ici, ce qui les intéresse, c'est pas le fla-fla, puis installation, puis tout, c'est vraiment de jouer. Donc, comme là, nos installations, c'est pas les meilleures, je dirais. En fait, vraiment, au Portugal, tu considères pas ça comme dans le top de la ligue. On a un synthétique, on a des vestiaires. Puis, notre abonnement au gym, c'est un gym de ville, tu sais, je vais m'entraîner, mais c'est pas les meilleures installations par rapport à ce que j'avais au Carabin. Mais les gens
OK.
ici sont plus intéressés à jouer au foot que tout le reste. Ouais.
Ouais, OK. Puis, est-ce que c'est populaire là-bas? Est-ce que les gens viennent beaucoup vous voir?
Mon club à moi, pas beaucoup parce que c'est vraiment, vraiment une petite ville, là. C'est plus petit que Saint-Hyacinthe. C'est vraiment minuscule où j'habite, le village en tant que tel. Mais si tu vas voir, par exemple, des matchs, quand on joue contre Benfica, à Benfica, ben, il y a quand même beaucoup de monde là, qui sont là. Ouais.
OK. Fait que ton village, t'es à combien de temps à peu près du beau pont là, qui amène jusqu'au centre-ville de Porto en auto?
J'irais 15 minutes d'auto à peu près.
OK, t'es pas loin. OK,
Ouais.
OK, OK. C'est
Non,
bon.
c'est pas loin, c'est pas loin. Ouais.
Fait que est-ce que ça l'arrive des fois, vous jouez, puis il y a comme presque aucun fan?
Il y a eu des matchs quand on joue contre des équipes bas de classement qui viennent de loin. Eux, ils n'ont pas beaucoup de fans qui se déplacent. Puis nous, on n'a pas beaucoup de fans. Surtout des fois, on joue à. Comme là, on a joué à 11 h le matin un mercredi. C'est pas mal impossible pour personne de venir, là. Fait que c'est sûr. Mais quand on a joué, par exemple, contre Sporting à la maison un dimanche matin, ben là, on réussit à avoir un petit peu plus de monde.
OK. Ouais, non, c'est ça. Sporting Benfica, là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les gros avec Porto. Mais Porto, ils ont-tu une équipe féminine? Parce que j'ai regardé, je ne les ai pas vus dans le classement.
Non, ils n'ont pas d'équipe féminine jusqu'à présent. De ce que j'ai compris, dans les prochaines années, les équipes qui veulent participer soit en Europa League ou en Champions, ils vont devoir avoir une équipe féminine. Ça va comme être un préalable. Après, je sais pas si Porto va se qualifier, puis je sais pas s'ils vont avoir une équipe non plus, s'ils vont, ben, on sait jamais. Fait que, on va voir.
OK, génial.
Ouais.
OK. Tu réponds bien aux questions. All right. Donc, je voulais te demander aussi la vie au Portugal. Comment est-ce que tu trouves ça?
Moi, j'aime bien. Les gens, ils sont vraiment relax. Quand tu es au Canada, tu te lèves à 6 h du matin pour aller travailler, tout va à 1 000 à l'heure tout le temps. Tandis que quand tu es ici, ben, les gens, ils prennent leur café tranquille le matin, pas de stress. Donc, ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Par contre, des fois, étant moi à 1 000 à l'heure, des fois, je trouve qu'on manque d'efficacité un peu dans ce qu'on fait, mais ça fait partie d'une culture qui est différente. Ouais.
Est-ce que tu trouves que les gens, parce que moi j'y ai été là, ça fait un mois et demi à peu près, j'ai passé beaucoup de temps à Lisbonne dans la région, j'ai vu Porto aussi. Les gens là-bas, est-ce que tu les trouves gentils?
Oui, je pense que peut-être c'est une différence entre le nord et le sud, je sais pas. Je sais qu'à Lisbonne, les gens, ils viennent d'un peu plus partout,
Ouais.
mais à Porto, ils sont vraiment gentils, chaleureux, j'adore vraiment comment ils sont, ouais.
Non, mais c'est ça, Porto. En tout cas, au Portugal, partout où j'ai été, moi, je les ai trouvés fantastiques, les gens, là. Fait que.
Ouais, vraiment, vraiment.
Puis, quand tu te déplaces pour aller jouer à. Est-ce que vous avez une équipe qui fait partie des Açores ou de Madeira dans les îles?
Ouais, on a une équipe qui vient de l'île de Madère. Donc, quand on va jouer là-bas, ben, on joue une fois là-bas, c'est en avion. Mais cette équipe-là, ils doivent se déplacer un week-end sur deux en avion.
OK. Fait que quand tu vas là-bas, est-ce que tu as le temps un peu de te promener ou c'est vraiment juste le foot puis on revient tout de suite après?
C'est pas mal juste le foot, puis on revient tout de suite après. Ouais.
OK. Puis tous les autres déplacements que vous faites, ça se fait parce que c'est pas un très gros pays géographiquement, ça se fait autobus, train, comment ça se passe?
C'est toujours en autobus.
Toujours en autobus, OK. Donc vous volez seulement une fois pour aller à Madeira, OK. Puis dernière petite question. Tes conditions de travail, est-ce que tu. On le sait très bien là, que pour le soccer féminin, c'est malheureusement plus difficile de gagner sa vie avec ça. Est-ce que toi, à l'heure actuelle, tu as des conditions de travail qui font en sorte que tu puisses gagner ta vie et bien vivre seulement de ton talent et de ta passion pour le soccer?
Je peux gagner ma vie et bien vivre. La seule chose que je peux dire par rapport à ça, c'est tu peux gagner ta vie et bien vivre, mais prévoir pour le futur, ça devient plus difficile. Quand tu es une femme dans le soccer, à moins que tu joues dans une équipe comme Benfica, par exemple, là, oui, tu peux économiser de l'argent pour ta vie dans le futur. Mais ici, je vis plus d'un salaire à l'autre à chaque mois, je dirais. Mais je vis bien, je peux aller au resto, je peux profiter de la vie. Mais est-ce que je peux mettre de l'argent de côté pour acheter une maison? Non. Donc, c'est comme un entre-deux qu'il faut y réfléchir. Mais je pense qu'il y a des équipes de haut classement, là, oui, tu peux penser à plus tard, plus loin. Mais pour une équipe mi-classement, je dirais, c'est tu vis bien, mais tu mets pas d'argent de côté.
OK, excellent. Puis tes vacances, quand tu vas tomber en vacances, est-ce que tu veux les passer là-bas à Porto ou tu veux revenir à Saint-Hyacinthe? Porto, Saint-Hyacinthe, c'est pas pareil.
Moi, c'est pas pareil. J'ai envie de voyager un petit peu, d'aller dans le coin de Lisbonne, dans l'Algarve, un petit peu après que j'ai terminé ma saison. Mais c'est sûr que je vais revenir éventuellement, peut-être 2 semaines après, je vais revenir à Saint-Hyacinthe, au Canada. Ouais.
OK, excellent. Bon, ben écoute, on va terminer tout ça, Megan, avec. Tu as dit que tu aimais la Premier League. On va te poser des petites questions quiz pour tester tes connaissances sur la Ligue anglaise.
OK.
Des questions difficiles, mais c'est très difficile, je m'en excuse, mais on va voir si tu peux te débrouiller un peu, d'accord? Donc, est-ce que tu peux me nommer parmi le top 10 des joueurs? Combien est-ce que tu peux me nommer de joueurs qui ont le plus de matchs dans l'histoire de la Premier League?
Mon Dieu, j'ai pas mon historique Première Ligue est pas très bon. J'ai commencé à suivre ça il y a genre 2 ans, mais
Ah, OK.
ouais, donc ça c'est pas top. Donc je pourrais pas répondre à ta question malheureusement.
T'es pas capable de celle-là. OK. Si on dit les
Non.
meilleurs buteurs de l'histoire de la Premier League, est-ce que tu serais capable un peu?
Buteur, histoire à parler. Tu me poses des questions historiques, là, ça devient un peu c'est un peu plus
Ouais.
difficile.
C'est très difficile.
Ouais, pas certaine.
T'as pas une idée? OK. Ben, il y avait Shearer, Kane, Rooney, Salah, Henry, Defoe. C'est vrai que c'est un peu
Ouais.
plus difficile. Petite question facile. Quelle équipe en Premier League a gagné le plus de titres historiquement de la division de la Premier League anglaise? Avec 13.
Arsenal?
Non.
Arsenal ou Liverpool?
Non.
Arsenal, Liverpool, Man City. C'est pas City?
Non.
Mon Dieu.
Il en manque un gros que tu n'as pas nommé ou deux gros, on pourrait dire même deux et demi, là.
Arsenal, Liverpool, City. C'est United?
United, 13 titres.
Oui, ouais.
Ouais, Liverpool, ils n'en ont pas gagné pendant très longtemps, là, avant le dernier qu'ils ont gagné il y a quelques années.
Ouais.
Ils l'ont
Il
gagné
m'en
surtout
manquait
avant
un grand.
l'époque.
Oui, United. C'est parce qu'ils
Ouais.
font pas très bien en ce moment, donc ils sont un petit peu plus bas.
Non, c'est ça, c'est dur à croire, mais c'est comme ça. OK, ben écoute, Mégane Sauvé, est-ce que tu voulais saluer des personnes au Québec, à Saint-Hyacinthe, pour cette entrevue-là?
Pas nécessairement personne à saluer. Juste un bonjour à tout le monde au Québec. Un bonjour général, je dirais.
Parfait, ben écoute, merci beaucoup pour ton temps. Ça nous a fait plaisir de te recevoir ici à CISM et à CEPAC. Et on te souhaite une bonne chance pour la suite.
Merci beaucoup.
Merci.
Thank you.
De retour sur les ondes de CSM et CFAQ, le 89,3 FM, la plus grande radio universitaire francophone au monde, et CFAQ, le 88,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Wissem Bensta en clôture d'émission. On vient d'entendre Nuit magique de Catherine Lara, un classique des années 1980. Je suis très content de mettre ça puisque c'est de la bonne musique, selon moi, de la bonne musique pop qui date, puisque à l'heure actuelle, quand j'écoute la radio, bien je suis un peu déçu de la musique actuelle, donc c'est bien de retourner un peu en arrière, même si c'est pas très très mainstream et c'est pas très très populaire, mais pas grave. On est là ici à Universitaire en Action et à Soccer Sport, CFAQ, CSM. On est là pour vous offrir du contenu unique, différent, intéressant et spécial. Et parlant de contenu unique, différent, spécial, eh bien, ce qui s'est passé dimanche dernier au PEPS de l'Université Laval à Québec, le Rouge et Or qui l'emporte chez lui, le championnat national de basketball universitaire masculin par la marque de 77-71 contre Queens. Avec, bien sûr, on va les nommer les joueurs là, dans quelques instants, mais juste pour parler de la saison avant du Rouge et Or de Laval. La saison universitaire, on savait qu'elle allait être qualifiée puisqu'ils ils recevaient le championnat national chez eux. C'était la première fois d'ailleurs que ça se passait au Québec, dans la belle province. Classement général cette année, par contre, dans la division québécoise universitaire masculine du RSEQ, première Concordia, deuxième UQAM, troisième Bishop, quatrième Laval et cinquième McGill. Donc Laval a eu le dernier billet, en fait, pour se qualifier pour les séries éliminatoires au Québec. Et donc, si McGill ne connaît pas une saison très, très, très moyenne, voire mauvaise, eh bien, le Rouge et Or, peut-être, termine cinquième et dernier. Il n'est même pas qualifié pour les éliminatoires au Québec. D'ailleurs, ils ont perdu la demi-finale 77-67 contre Concordia. Ça se passait le 28 février à Concordia University. Et donc, au Québec, eh bien, c'est l'UQAM qui l'a emporté 63-57 pour le championnat québécois. Mais au championnat canadien, le Rouge et Or se qualifie et puis ils sont bons derniers, donc ils sont huitièmes, donc l'équipe la moins bien classée des huit équipes qui participent au championnat. Ils gagnent le premier match contre la meilleure équipe au pays, l'équipe de les Vikes de Victoria, de Colombie-Britannique, 75-69 au PEPS. Ensuite, en demi-finale, ils battent Dalhousie des Maritimes 85-74. Et en finale, contre toute attente, devant une foule survoltée de plus de 3200 personnes qui se sont présentées au PEPS, bien entendu, pour voir ce match-là. Et puis, c'était tout simplement incroyable. 3200, donc c'était salle comble, c'était plein. Et ils ont défait Queen's University 77-71. Et donc, le Rouge et Or de l'Université Laval est champion canadien, bien entendu, pour la première fois de leur histoire. Et c'est la première fois de l'histoire au Québec qu'une équipe universitaire francophone remporte le championnat canadien. Bishop l'avait fait en 1998 et Concordia en 1990. D'ailleurs, Bishop, c'était tout à leur honneur puisque c'est une très petite université, donc ils ont su avoir un très bon programme de basketball à cette époque. Et donc, pour le Rouge et Or de l'Université Laval, personne n'y croyait en début de saison et puis les voilà champions universitaires, champions nationaux au Canada. Donc, je veux féliciter tous les joueurs qui ont participé à ça. On va les nommer, bien entendu. Steve, Joseph, Sidney Lacombe, Ismaël Diouf, Willem Wanza, Aris Elezovic, qui d'ailleurs, lui, jouait avec McGill l'année d'avant, Saïdou Sall, Jaden Larosilière, Baba Yao, Fabrice Wassier-B et Brandon Wembe. Donc, félicitations à eux. Et également, on peut nommer les arbitres là, de l'équipe du match, Jason Steele, Perry Stothart et Kevin Lay. Donc, Rouge et Or de l'Université Laval à Québec, chez nous, mesdames et messieurs, champions nationaux, tout simplement, champions nationaux canadiens. Puis on va bien sûr féliciter l'entraîneur, hein, celui qui est le maestro, comme on dit. Nommé entraîneur là en 2019, Nathan Grant. Il a gagné l'équipe au premier titre canadien de son histoire, comme je l'ai mentionné. Il est âgé seulement de 35 ans, alors, donc c'est pas un homme très, très vieux. Et donc, félicitations à lui, félicitations à l'Université Laval, le Rouge et Or, et félicitations au Québec pour avoir ramené le championnat canadien de basketball au Québec. Donc voilà, c'est tout pour cette émission. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était Wissam Bensta au micro à Universitaire en Action sur les ondes de CSM et pour Soccer Sport sur les ondes de CFAC. On se revoit la semaine prochaine. Et puis un petit mot bien sûr sur la Ligue des Champions. On va le mentionner, le tirage de Ligue des Champions. Manchester City, Real Madrid, Arsenal, Bayern, Munich, Atlético de Madrid, Borussia, Dortmund, Paris Saint-Germain, FC Barcelone. Voilà, c'est tout pour cette émission. À la semaine prochaine et soyez prudents. Au revoir.